Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Et bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 si vous nous rejoignez et au programme de ces instants des Bartas. Nous serons tout à l'heure avec Philippe Delasso et Nimi BD pour parler des quatrièmes rencontres de Saint-Enimi. C'est début octobre et nous sommes en plateau avec Sandrine, bonjour.
Bonjour.
Sandrine, le salon du bien-être et de la paix approche, c'est le 5 octobre prochain. Tu as fondé aussi l'association Lou Mazilou, on va en parler. Tu animes les voix du bien-être sur cette antenne. Tu es toi-même thérapeute. Eh bien, commençons par parler de toi. Je te prends comme ça, voilà, à la volée. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené aux thérapies que tu pratiques? On viendra dans les détails sur ces fameuses thérapies.
Alors, je suis Sandrine, je suis une ancienne infirmière clinicienne. J'étais infirmière de consultation et j'ai fait un burn-out. Et grâce à la synergie de la médecine conventionnelle et alternative, j'ai dépassé ce burn-out assez rapidement pour un burn-out. Et puis, tout naturellement, il m'est venu, comme j'accompagnais déjà l'humain, ma reconversion où j'accompagne de manière plus globale avec toutes mes compétences d'infirmière clinicienne d'avant et avec les nouvelles où je suis une antenne, je capte des choses. Je me suis formée aux constellations parce que c'est une pratique qui m'a vraiment alignée du sol au plafond, je dis toujours. Et aujourd'hui, j'accompagne la personne, mais de manière globale et personnalisée et dans ses énergies aussi. Il n'y a pas que le corps physique.
Alors c'est un peu compliqué pour moi de comprendre les thérapies que tu proposes puisque j'y connais pas grand chose, j'avoue, hein. Mais parlons déjà de ce que c'est que, de ce que sont les constellations familiales.
Alors les constellations familiales, ça fait partie des thérapies systémiques. Ça veut dire que vous travaillez sur vous en individuel, ça se fait aussi en groupe, mais vous amenez pas toute votre famille. Sauf que, comme c'est de la systémie, pour toutes les thérapies systémiques, c'est comme ça. Vous me remettez du mouvement dans un système qui est figé et automatiquement, ça laisse l'opportunité aux personnes de votre système de se repositionner. Souvent, on dit dans une famille, il y a un rebelle, il y a un élu, celui, on appelle aussi le mouton noir. Moi, j'aime mieux dire l'élu, mais il y en a toujours un qui va à contre-courant, et c'est lui, très souvent, qui nettoie pour tout le monde.
Quelles sont les personnes qui peuvent faire appel à ce genre de thérapie?
Alors, il faut savoir que déjà, tout est constellable. Ça veut dire qu'on va aller dans sa famille. Par exemple, les constellations familiales, c'est vraiment l'outil d'excellence pour trouver sa juste place dans la vie. Concrètement, très facilement, quelqu'un y arrive et généralement, c'est « je ne me sens pas à ma place dans la vie ». Ok. Donc, on va aller consteller, on appelle ça. On va poser une problématique. On va mettre en image ce que la personne a à l'intérieur. Si c'est en individuel, c'est avec des petites figurines. Et la personne, elle choisit son papa, sa maman, quelqu'un, enfin une figurine pour le représenter lui, et éventuellement les frères et sœurs. Et là, on travaille la juste place. Mais si on travaille un projet professionnel, c'est aussi possible, on va choisir un aspect pour le projet pro, un aspect pour la personne qui a ce projet pro, et on va voir ce qui se passe. Dans le champ des constellations, il y a des informations qui sont nommées, soit par les figurines, et c'est moi qui vais sentir, et là, je capte avec toutes mes capacités. Des fois, c'est des images, des fois, c'est des paroles. Il y a tous les clairs, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, etc. Et en groupe, c'est les personnes qui vont être connectées, recevoir, elles se mettent en mode canal, elles vont recevoir des informations qui ne leur appartiennent pas. Là, si on est dans la juste place, ben, tu vas dire à quelqu'un dans le groupe, est-ce que tu veux bien me représenter? La personne, elle dit oui ou non, c'est OK. Est-ce que tu veux bien être mon papa, ma maman, ma sœur, mon frère? Et dans le champ des constellations que j'ouvre, ce qui est magique, c'est que les personnes, elles vont ressentir et capter des choses qui ne leur appartiennent pas. Donc, un, pour les représentants, c'est un super exercice de lâcher prise. Ça fait beaucoup de bien. Et deux, ça vient aussi raconter une histoire pour eux, pour les représentants, parce qu'on n'est jamais choisi par hasard. Et donc, cette personne qui est constellée, elle voit en image son système familial. Et on apprend que, un exemple, bah, tu vois, elle positionne les personnages et il y a un personnage qui tourne le dos à tout le monde. Et donc, il se trouve que c'est quelqu'un qui est exclu du système. Mon travail à moi, c'est remettre du mouvement, réparer ce qui a besoin de l'être, nommer ce qui a besoin de l'être, pour après finir sur une image où dans le corps de la personne constellée, c'est allégé. Je sais qu'une constellation, elle est terminée quand la personne, au tout début, elle me dit « je voudrais trouver ma juste place ». Ok, je vais lui dire « on va aller dans ton corps chercher cette question ». « J'ai mal à la gorge ». Très bien. Donc, si ça marche, ta gorge, elle est libre. Ok. Et en fin de constellation, j'arrête que quand la gorge, elle est libérée.
Est-ce que c'est un peu comme l'hypnose et tout le monde n'est pas forcément sensible à ce genre de thérapie ?
Pas du tout. Moi, j'adore qu'on me pose cette question. Alors, l'hypnose, ça va induire un état modifié de conscience. Pas moi. La personne, elle est consciente du début à la fin et même les représentants. C'était quoi l'autre question ?
Est-ce qu'on est sensible, comme l'hypnose ?
Est-ce que ça peut ne pas marcher ? Alors, la personne qui est constellée, elle est à côté de moi, elle observe la constellation, sa problématique. Du coup, pour elle, soit elle se dissocie, à un moment donné, elle part dans la lune. Moi, je la ramène parce que je le vois, parce que la personne qui la représente, elle va dire « je ne me sens plus là ». Et là, je regarde la personne, elle me fait « ah ouais, désolée, j'étais ailleurs », parce qu'elles sont en lien. Et c'est pas possible de rien ressentir. Et quand on ressent rien, parce que souvent, c'est ce que me disent les gens dans le premier cercle où on se présente. Moi, j'ai peur de pas sentir. Tout est parfait. Quand on ne ressent rien, ça vient raconter quelque chose aussi. Ça vient donner une information à la personne qui est constellée. Je prends un exemple. Il y a un monsieur qui était là. Il découvrait. Il dit « Je suis désolée, je représente le frère de la dame. Je sais, mais moi, je m'en fous de ce qu'elle raconte. Elle pleure, ça ne me touche pas. Je suis désolée de dire ça, ça ne me touche pas. » Et donc, je dis à la personne qui est à côté de moi « Comment ça vient à toi que ton frère, il s'en fout ?» Elle me dit « Mais mon frère, il est coupé de ses émotions et c'est vrai qu'il s'en fout de tout. » Alors, j'ai dit à la personne « Tu vois, tu captes très bien. C'est juste son système à elle. » Et ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « je sens rien du tout, du début à la fin ».
Qu'est-ce que tu pourrais répondre à celles et ceux, pardon pour la question, j'aime bien aussi poser des petites questions qui dérangent, à celles et ceux qui pensent qu'il peut y avoir des dérives, entre guillemets, ou que ça peut être assimilé à du charlatanisme, par exemple ?
Moi, je les invite à essayer. Et j'aime dire que derrière chaque peur, il y a toujours un cadeau. Évidemment que ça ne parle pas à tout le monde. Et si ça ne vous appelle pas, ben vous n'y allez pas. Mais si vous vous sentez appelé, essayez. Ben venez au Salon du Bien-être, essayez l'atelier et vous verrez.
C'est comme un programme radio. Si vous n'aimez pas, vous zappez sans aucun problème. Alors, vous avez fondé l'asso Lumazilou. Qu'est-ce que vous proposez avec celle-ci ?
L'association Lumazilou, au départ, c'est deux infirmières, Séverine Jeannaudet et moi. On voulait créer du lien avec les différents thérapeutes du coin, médecine conventionnelle ou alternative. Et dans cette synergie, cette idée de synergie, on a créé des stages en développement personnel. On a créé le Salon du Bien-être. Ça, c'est un très, très gros événement pour nous parce qu'on n'était pas du tout organisatrice de salon. Donc, l'année dernière, c'était la découverte. Cette année, on va un peu plus loin. On a grandi un petit peu. Et l'idée, c'est vraiment de tisser des liens pour proposer aux populations locales et autres, parce qu'on pratique aussi en visio, nos différentes pratiques, que ce soit dans le conventionnel ou l'alternatif.
Transition toute trouvée, le Salon du Bien-être et de la Paix, la deuxième édition, c'est le 5 octobre prochain, ici à Florac. Bah justement, tu disais que c'était une découverte l'année dernière, mais comment ça s'est passé ?
Ça a été une réussite. On a été félicités et par les exposants, le public, la mairie. Enfin, on est très, très bien accompagnés. Je remercie la mairie de Florac. Cette année, on a deux autres partenaires que je remercie aussi, le Gîte L'Étape, où il y aura les conférences. Donc, ça sera beaucoup plus cocon. Et l'Encrier, le tiers-lieu, qui va accueillir les ateliers.
Alors évidemment, on ne va pas pouvoir tout déballer parce qu'il va se passer énormément de choses. Je vais te demander de choisir et de faire quelques focus. Ce n'est pas un exercice facile, je sais bien, mais parfois, si on avait 3 heures pour en parler, on parlerait de tout le monde, mais là, ce n'est pas le cas.
Je vais être succincte. Il y aura dans la salle des fêtes des exposants, thérapeutes, énergéticiens, des pratiques multiples. Ça va de la sophrologie aux cartes d'oracle. On a même une dame qui a créé son oracle et qui viendra le présenter. Nous avons beaucoup de partenaires locaux cette année, tous les praticiens du Centre Alternatif Naturel de Florac. Vous pourrez, sur place dans la salle des fêtes, essayer ces techniques-là, par exemple, des massages, des guidances, etc. Je ne vais pas tout nommer. Et puis, il y aura les conférences au Gîte L'Étape. Et là, je te donnerai le lien pour Hello Asso pour aller réserver sa place, même si c'est gratuit. Vraiment, j'invite, ça a déjà commencé. Si vous voulez être sûr d'avoir une place pour une conférence ou un atelier qui vous intéresse, il faut aller réserver sur Hello Asso. Donc, les conférences, il y en a toute la journée. Ça dure 1 heure. Et puis après, à l'atelier, il y a les ateliers. Là, c'est participation libre à partir de 2 euros pour que ça reste accessible à tout le monde. Et on reverse à l'encrier. Et là, vous pourrez essayer les constellations humaines ou animales, la sophrologie, l'hypnose spirituelle, la magie du présent. C'est très varié, toutes ces pratiques. C'est des praticiens qui pratiquent depuis plusieurs années. Certains sont connus ici, d'autres moins. Et vous avez aussi la possibilité, toujours sur Hello Asso, de prendre des tickets de tombola où vous pourrez gagner des soins de ces praticiens qui sont là et qui jouent le jeu pour la tombola. Et la dernière chose, c'est la régaillade. C'est notre espace restauration où on a la chance d'avoir un cuisinier professionnel formé dans un étoilé. Donc, c'est pas n'importe quoi. Alors, je le vends bien parce que c'est mon mari. C'est facile. Il a une équipe avec lui et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on prend la même que l'année dernière. Il y a le menu entrée, plat, dessert. Il faut absolument le réserver si vous voulez le goûter sur Hello Asso. Sinon, il n'y en aura pas assez. L'année dernière, il en a manqué.
Et alors, j'ai aussi contact atlou-mazilou.fr pour réserver le repas, c'est ça?
Non, c'est tout sur Hello Asso.
Très bien.
Oui.
Voilà, c'est tout à fait clair. Tu as attisé ma curiosité et j'ai raté la question, ça, je l'avais posée et je suis passé après à autre chose, c'est pas bien grave. Tu as parlé de constellation animale.
Oui, alors ça, c'est mon dada.
C'est un
J'accompagne l'humain, tu vois, tout est parfait. J'accompagne l'humain et l'animal. Et parfois, nos animaux, dont on est si proche, ils ont un problème de comportement qu'on ne comprend pas. Ils se mettent à faire pipi partout. Ça peut être une agressivité qu'ils n'avaient pas. Et donc, moi, mon travail en constellation, c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, je vais mettre soit avec des représentants en groupe ou en visio, parce que tout est énergie, donc tout est OK. Et je vais aller mettre cette problématique dans la matière. Quelqu'un va représenter un chien, un âne, etc.
C'est tout à fait clair. Sachez, auditeurs, auditrices, que toute la journée du 5 octobre, pour les conférences, c'est gratuit. Vous pouvez aller à la rencontre des praticiens, praticiennes dans la salle des fêtes. Les ateliers, c'est à l'encrier, tarif libre à partir de 2 euros, j'allais dire 10, mais c'est 2. Et l'espace restauration, la régaillade. Ça, ce sera à la salle des fêtes, le repas?
Oui.
Eh bien voilà, c'est tout à fait clair. Ça se passe donc le 5 octobre entre la salle des fêtes, le Gîte L'Étape et l'Encrier. Je mets le lien Hello Asso sur notre site dans un instant. Merci beaucoup Sandrine.
Merci.
Et oui, et aussi dire que ta dernière émission avec Aline Dimino est disponible sur notre site. C'était aussi très intéressant. Merci beaucoup à toi et à très bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt.
C'est toi le conte. C'est moi le menteur. Le disque d'argent demeure silencieux. Au creux de l'élan, celui de tes yeux. C'est toi le penseur, c'est moi le graveur. Caché sous les mots, le cri de l'oiseau te dit d'être beau. Je suis ton écho. Mmh. que tes deux mains seules y se croisent, là je s'en mêle, et toi tu n'y vois rien. C'est art de jour et de joueur, que tes deux mains seules y se croisent, là je s'en mêle, et toi tu n'y vois rien. Ton menteur, ces jours où je n'existe plus, délivré. Tu prends l'échelle de l'inconnu, tu prends l'échelle de l'inconnu, tu prends l'échelle de l'inconnu.
A rejoint en plateau Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Président d'Ennemi BD, merci d'être avec nous. Début octobre, de belles rencontres se profilent à Saint-Ennemi. C'est la 4e édition, on va en parler. Mais trois choses d'abord. La première, encore une belle réussite pour le festival de BD au début de l'été.
Oui, c'était une belle édition. Alors une édition encore différente, elles sont toutes différentes, même si c'était déjà la 18e. Celle-là, elle s'est écoulée comme un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que on n'a pas eu ces pics d'affluence qui, à certains moments, nous mettaient en difficulté, soit parce qu'il y avait trop de monde dans les salles, soit parce que les auteurs étaient un peu pris d'assaut. Là, ça a été un flux régulier où tout le monde a pu y trouver son compte, les auteurs comme les visiteurs, et où la fréquentation, finalement, s'est avérée à peu près équivalente aux années précédentes, c'est-à-dire autour de 5000 passages. Quoi.
Parlons un petit mot, dirais, comme ça, de la salle capitulaire. On était à la présentation du projet au mois de septembre, là, c'était quand le début ou mi-septembre. Alice, une des porteuses de projet, sera avec nous tout à l'heure. Nouveau lieu de vie, ça va être pas mal ce projet. Hein.
Tout à fait. Je crois que nous, c'est dans le prolongement de ce qu'on essaye de faire depuis des années sur ce territoire. L'idée, c'est d'apporter une touche artistique à un territoire qu'il mérite, qui a été happé par le tourisme, et notamment le tourisme de masse depuis quelques décennies. Donc il était urgent de valoriser son patrimoine, de faire en sorte que cette valorisation soit originale. Et je pense que l'idée du centre d'art citoyen que développe cette équipe me paraît tout à fait pertinente. Nous, on essaiera d'y apporter notre modeste contribution. Hein. La BD est un art, certes le 9e seulement, mais peut-être qu'à un moment, on aura des collaborations, c'est évident. Après, il reste un gros travail de mise en œuvre du site, et notamment d'adaptation d'abord bien sûr à la circulation du public, et puis d'adaptation au contexte culturel qui évolue. Mais moi, je suis très optimiste, parce que je pense que c'est ce coup de fouet dont a besoin ce territoire.
Revenons à Enibi BD, bien sûr, il y a les deux temps forts de l'année, c'est donc au mois d'avril pour les 48 heures de la BD, et puis évidemment le festival au début de l'été, début juillet, mais ce n'est pas que ça Enibi BD, sous quel signe sont placés la saison de votre asso?
Alors, je crois qu'on a toujours eu effectivement ces pics un peu visibles que constituent les événements grand public. Tu citais les 48 heures de la BD, le festival, et puis là, celui dont on m'a parlé en octobre. Mais notre travail, c'est un travail tout au long de l'année, hein, un fil conducteur lent et régulier, qui a pour but de donner à chacun la possibilité dans ce département, puisqu'aujourd'hui, on a un peu cette envergure-là, de se rapprocher de la BD, du 9e art, à travers différentes actions, hein, que ce soit au niveau des publics scolaires, bien sûr, écoles, collèges et lycées, avec qui on est très proches et pour lesquels on agit régulièrement, soit en mettant à disposition des ressources, des caisses de BD qui circulent, avec des œuvres qui permettent aux jeunes de rencontrer autre chose que ce qu'on trouve dans les supermarchés. On a aussi des projets de plus ample signification qui permettent à des auteurs d'être en résidence et de travailler avec des scolaires pendant une semaine et d'arriver jusqu'à une production, une publication qu'on valorise ensuite dans nos événements. Et puis on répond à des demandes particulières d'enseignants qui sur un thème, sur une illustration d'un projet souhaitent que la BD trouve sa place, voilà, entre autres, mais pas que, hein. Je crois qu'on est là aujourd'hui dans cette veille un peu régulière sur cette présence du 9e art sur ce département.
Alors, les quatrièmes rencontres d'Enibi, c'est les 3, 4 et 5 octobre. Elle est partie d'où cette idée ?
Elle est partie du travail qu'on a fait il y a maintenant 3 ans sur le manuscrit médiéval de Bertrand de Marseille, ce superbe poème en demi-levers en langue romane médiévale. Et nous a amené donc ce travail à illustrer bien sûr ce manuscrit qui est en un seul exemplaire à la BNF à Paris. On en a sorti un livret d'art qui fonctionne bien, hein, qui est largement diffusé sur le territoire. On a une douzaine de distributeurs tout au long de l'année là aussi. Et l'idée c'était d'aller vers le grand public, de montrer un peu cet objet, cette démarche. Et dans le montrer cette démarche, il y avait bien sûr partager. Alors partager les illustrations, ça va être le cas cette année puisqu'on apporte encore une petite touche d'aménagement avec un chemin de croix illustré avec les illustrations de Florence Magnien, mais on en parlera. Et puis c'était donc partager en même temps cette richesse culturelle qui est autour de ce patrimoine immatériel avec un certain nombre d'historiens qui se sont penchés sur le sujet ou qui s'y penchent régulièrement à travers notamment les études géographiques. Et puis y relier aussi la partie festive. Donc la musique, hein, qui prend un petit peu plus de place chaque année avec le festival des troubadours qui chantent la Roma en Occitanie, et croiser avec d'autres assos, parce que c'est aussi ça, hein, on vit dans un territoire, et donc la fête votive est aujourd'hui pour nous un support croisant culture et animation.
Alors ces rencontres, elles vont commencer le vendredi 3 à 17h par une conférence de Fernand Peloux.
Alors Fernand est un habitué. Fernand fait partie de ceux qui nous ont aidés donc, sur cette recherche historique dont je parlais, sur la vie des Santenimia. Il est chercheur au CNRS. Il était à Rodez, donc c'était un voisin. Il s'est aujourd'hui déplacé un peu plus au sud, vers Tarbes, mais il nous reste fidèle. Et il va introduire donc, ses rencontres par une petite conférence assez brève qui se déroulera en l'église Notre-Dame-du-Gourd pour éviter les changements de lieu, puisqu'après il y aura un concert. Et cette mini-conférence va en fait servir à éclairer sur le pourquoi cette fête des Nimi, pourquoi à cette date du mois d'octobre et pourquoi est-elle millénaire. En réalité, en quelques mots, Fernand nous apportera une lecture là aussi hagiographique de ce qui se passait à ce moment-là entre territoires. Une concurrence qu'on retrouve aujourd'hui un peu en rigolant entre Aveyronnais et Lozériens. On en était déjà un peu là puisque du côté de Conques, l'évêque avait déjà sa légende, avait déjà son pèlerinage, avait déjà sa façon de faire vivre économiquement le territoire. Et l'évêque de Javol, ici en Gévaudan, s'est un peu réveillé et s'est dit finalement ça vaudrait le coup peut-être d'utiliser les mêmes démarches. Et donc on fait écrire une légende par un troubadour et puis derrière ben, on y met quelques miracles, ce qui fait que ça fait venir du monde. Et on ritualise ça par un pèlerinage annuel qui se situe le premier week-end d'octobre et qui depuis donc est pérennisé.
Ce sera suivi, hein, tu l'as abordé, du groupe Vitiza. On dit Vitiza, Vitiza ?
Alors on dit Vitiza. Vitiza, c'est un groupe musical sur la musique médiévale qui travaille en partenariat avec un chœur, un chant choral, le chœur Guillaume. Et ils ouvriront donc ces rencontres à 18h15 le vendredi, après l'intervention de Fernand Peloux, en l'église donc, sur un ensemble de polyphonies de la période médiévale autour du 14e et 15e siècle. C'est chaque fois une balade assez extraordinaire dans cette période, à la fois à travers bien sûr des instruments médiévaux, mais surtout cette valeur du chant choral qui anime particulièrement bien le cœur de l'église à Saint-Élémy.
Précisons que tout est gratuit.
Bien sûr, accès libre.
Le samedi 4, le traditionnel concours de pétanque à 14h, et puis j'ai l'impression que cette année, bon, ça, en même temps je vous reconnais bien là, hein, ça s'inscrit un peu pour les familles, pas mal d'animations pour les enfants et pour les familles en général.
Bien sûr, je crois que c'est important de faire vivre ça collectivement. Il y a ceux qui sont un peu curieux individuellement, mais souvent c'est dans une démarche plus familiale que le week-end on se déplace dans les gorges vers Saint-Élémy, et donc l'idée c'est de proposer plusieurs choses pour chacun. Là-dessus, le foyer rural, culture et loisirs, et puis l'association Projet l'école Saint-Trimini œuvre aussi, puisque concours de pétanque, atelier pour les enfants, maquillage, un petit spectacle à la médiathèque à 16h. Voilà, un ensemble qui fait que, bon, on peut se dire que finalement, Saint-Élémy, le 4 octobre, le samedi, c'est pas mal pour aller passer l'après-midi, voire la soirée, quoi.
Et puis justement, abordons cette soirée, puisqu'une nouvelle conférence, cette fois-ci animée par Muriel Angelia Scott. J'écorche tous les noms.
C'est ça. Alors, c'est compliqué parce que moi, je pense que c'est. En plus, c'est Myriam et non pas Muriel.
Ah.
Donc, on a fait une petite coquille, okay. Déjà. C'est Angelia Scott. C'est quelqu'un qui est historienne de formation, qui n'est pas très lointaine, puisqu'elle habite à la Canourgue. Elle édite beaucoup avec son mari. Et elle viendra nous apporter un regard intéressant sur la période mérovingienne, là aussi en ce territoire du Gévaudan, par un clin d'œil sur le fait qu'on frappait monnaie. On frappait monnaie dans ce territoire, et notamment pas loin de Saint-Élémy, à Banassac. Et cette monnaie frappée était en fait commande du roi et était diffusée sur l'ensemble du royaume, ensuite du royaume de France. Donc c'est intéressant de se rendre compte que ce territoire avait su, à ce moment-là, capter comme ça un certain nombre de savoir-faire ou de centres d'intérêt pour faire venir du monde dans ce lieu qui paraissait un peu perdu quand on le regardait depuis la cour.
Et je vais te laisser dire le nom de l'artiste qui se produit le soir, comme ça je ne ferai pas de coquilles ni de boulettes.
Alors le soir il s'agit de Gérard Zucchetto qui anime depuis une vingtaine d'années, bon poids, un travail remarquable sur les troubadours et notamment sur la musique des troubadours. Il a produit un livre encyclopédique sur ce sujet, les troubadours en Occitanie, il a fait un collectage de chants et de poèmes de ces périodes-là. Il en a édité une dizaine de CD, c'est énorme, et il anime donc un groupe musical qui s'appelle, je crois, Troubar, et Troubar Ensemble. Et ce Troubar Ensemble vient donc nous éclairer cette fois-ci autour des langues romanes. Et donc, on va avoir un récital qu'il appelle Pescaire d'Estellas, avec de l'occitan, du castillan, de l'italien, du français. Et cette musique des langues sera accompagnée par la musique des instruments, puisque violoncelle, alto, hautbois, corps anglais, seront là aussi pour mêler le chant, le récitant et la musique. Faire en sorte qu'on se laisse bercer d'un à l'autre par la musique des langues.
Le dimanche, il y a le traditionnel vide-grenier et la vente de manoule. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que 10h30, rendez-vous devant l'église pour une balade historique. Donc, c'est le retour de Fernand Pelou.
Toujours, voilà, ce mélange entre du temps festif traditionnel, la fête votive, hein, les manoules, le vide-grenier, etc. Et puis, une petite touche de connaissances historiques, de partage de culture. Fernand accepte de prendre le chemin de l'ermitage et tout en grimpant, à l'occasion des stations, se poser un peu, souffler un peu et puis répondre ou apporter des éléments d'information sur ce lieu particulier qu'est l'ermitage et comment il traduit une partie de l'histoire. Histoire du village, qu'il a lui fouillé largement à travers la géographie dont on parlait tout à l'heure, celle de Bertrand de Marseille. C'est aussi pour nous l'occasion, je le disais en introduction, d'inaugurer un chemin de croix illustré. Alors ce n'est pas un chemin de croix au sens premier du terme, cela s'entend. Les stèles sont là, il y en a 14, normal, c'est un chemin de croix au sens catholique. Mais par contre, nous, on va l'utiliser comme un support pour permettre aux promeneurs, qui souvent grimpent à l'ermitage, d'accompagner son effort par le plaisir des yeux et par le plaisir du texte, puisque sur chaque stèle portant une croix de station, il y aura une illustration de Florence Magnien, finement sélectionnée, et un petit extrait de la légende, très précisément désigné, qui permettra, comme ça, de station en station, de découvrir petit à petit cette légende et d'avoir envie, peut-être, à la fin, de prendre le livre, de se poser et de la lire plus calmement, plus longuement, puisque s'il y a 72 pages dans le livret, ce n'est pas par hasard. Alors on ne les résume pas en 14 panneaux, mais on peut peut-être donner envie d'aller fouiller ce livret et ses superbes illustrations.
Sur les traces d'Ennemi, balades et légendes, c'est le nom du livre dont tu parles. Il est encore disponible ?
Il est toujours disponible. Il est distribué dans une douzaine de points sur le territoire, volontairement. Trois sur Saint-Ennemi et puis quelques-uns sur la vallée, en amont ou en aval du village, hein, volontairement. Ça reste un ouvrage à usage territorial. Mais il a une diffusion régulière qui fonctionne bien. Parce que c'est aujourd'hui un outil de référence, c'est le seul qui contient la totalité de la légende dans sa version scientifique, traduite par Gérard Gourian, professeur à l'Université de Montpellier. Et puis surtout, il bénéficie de ce travail d'illustration conséquent d'Heroic Fantasy que Florence Magnien a su accomplir. Donc oui, il est disponible, il est toujours au même prix, à 19,50€ je crois, et il est même disponible sur notre site internet, ça continue.
Ennemi-bd.fr, c'est un partenariat entre trois associations, donc Ennemi-bd et les deux autres.
Et les deux autres, donc, je l'ai cité brièvement tout à l'heure, le foyer rural qui s'appelle Culture et Loisirs sur le village, qui anime tout au long de l'année des situations au profit du public local, puisque la fête votive, c'est un peu cette idée qu'on avait quand on disait en occitan « Aben pas acut l'outen des failles la botte ». Ça veut dire il faut faire la saison et puis après on fera la fête. Et là, c'est un peu ça l'idée du foyer rural, c'est de permettre aux gens de se retrouver après cette saison touristique toujours un peu éreintante et de prendre un peu de temps avant que la météo ne ramène chacun chez lui. Donc il y a le foyer rural et puis après l'association liée à l'école qui a envie de donner aux enfants d'autres choses que celles qui sont strictement dans le temps scolaire, qui s'associent donc à cet événement.
Les quatrièmes rencontres d'Ennemi, ce sont les 3, 4 et 5 octobre, où ça, bah, à Saint-Ennemi, bien sûr. Vous retrouvez toutes les infos sur le site ennemibd.fr. Merci beaucoup, Philippe.
Merci et à bientôt.
Eh bien, à bientôt. Pas sur cette antenne, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est bien la dernière fois. Mais en tout cas, bonne route à toi et excellente saison à Ennemi BD. Ciao.
Voilà. À bientôt, tous.
Pour terminer cette émission, communiqué de presse de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, beaucoup moins réjouissant. La situation des personnes en attente de régularisation en Lozère devient de plus en plus intenable. Sur le département, des dizaines de personnes attendent un titre de séjour. Elles sont maintenues dans la précarité et ne peuvent ni travailler, ni chercher un logement, ni envisager concrètement leur avenir sur le territoire. Des personnes qui ont des promesses d'embauche en CDI dans des secteurs reconnus en tension alors que les employeurs de Lozère ont des difficultés pour trouver des salariés. Des familles avec enfants intégrées dans la vie locale alors que des classes ferment dans des écoles, que des crèches sont menacées. Depuis presque un an, après 4 rendez-vous avec le préfet, malgré ses promesses à plusieurs collectifs de soutien aux personnes exilées. Aucun titre de séjour n'a été délivré aux personnes suivies par RESF. Plusieurs personnes ont reçu une OQTF. Plusieurs autres sont sommées de retourner dans leur pays, demander un visa. Une personne a même reçu un courrier pour un rendez-vous au commissariat de police de Mende pour être expulsée. 4 personnes suivies par RESF ont eu une autorisation provisoire de séjour, ce qui ne permet pas de se projeter dans l'avenir, puisque cette autorisation ne permet que quelques mois de répit et un strict minimum de droits. Le préfet peut faire quelque chose, RESF nous dit « nous aussi ». Le réseau Éducation sans frontières appelle donc à un rassemblement à Mende devant la préfecture, place Urbain 5, mercredi 24 septembre à 17h. Soyons nombreux pour dénoncer cette politique inhumaine et exiger la levée des OQTF et la régularisation de toutes ces personnes précarisées. On en reparlera bien évidemment sur cette antenne. Voilà, sur cette nouvelle, on va se quitter avec Citoyens du Monde de HK et passer un excellent moment sur Radio Bartas. À très vite, ciao.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo, 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 yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes.
sorte d'ancienne conquête, vestige de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour elle. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières.